Rencontre et profil magazine. Une production de Radio Nederland en partenariat avec votre radio locale. Rencontre et profil magazine. Présentation Razak Saizonou.
Salut à tous et merci d'être au rendez-vous de la circulation des idées sur le développement de notre continent. Un continent qui se trouve plus que jamais à la croisée des chemins. Il est admis par tous que l'Afrique a traîné trop les pas par rapport à son développement. Mais aujourd'hui, tout le monde semble être d'accord que le continent se porte de moins en moins mal. Ce qui rassure d'ailleurs sur les opportunités dont elle dispose pour occuper sa place dans un monde en pleine mutation. Car, comme le souligne l'historien Ibarder Thiam du Sénégal, l'Afrique sera le continent du 21e siècle. Mais à une seule condition, que les dirigeants d'aujourd'hui et de demain ne reprennent pas les mêmes erreurs commises par le passé. Des erreurs qui furent fatales pour l'Afrique. Selon de nombreux chercheurs et universités du continent, l'Afrique n'aurait pas connu cette longue traversée de désert si, dès les indépendances, les bonnes décisions étaient prises, les bonnes stratégies étaient élaborées et les bons plans de développement étaient mis en place. Ce ne fut malheureusement pas le cas, mais ne revenons plus en arrière. Aujourd'hui, sous l'éclairage d'éminents universitaires et intellectuels africains, nous évoquerons des actions à mener, des directives à prendre, des nouveaux chemins à emprunter afin que l'Afrique puisse réinventer son avenir que nous souhaitons tous réussir. Tel est le pari de cette édition de Rencontre et Profil Magazine que vous pouvez également écouter sur notre site internet www.rnw.nl. En dépit du progrès et des améliorations socio-économiques notables enregistrées ces dernières années sur le continent, le moins qu'on puisse dire est que l'Afrique est d'abord entrée dans le 21e siècle sans que de nombreux problèmes ne soient résolus, notamment les problèmes de pauvreté et d'urbanisation rapide et de gouvernance des villes, l'intégration régionale, l'inégalité entre les gens, l'insécurité alimentaire, les conflits et la violence, et le fait d'occuper une position subalterne, sinon de dominer sur la scène mondiale. Certes, le poids du passé constitue un handicap important pour l'Afrique, notamment celui du colonialisme et du néocolonialisme. Mais les dirigeants africains auraient surtout manqué de vision par rapport aux aspirations de leur population. C'est du moins ce que pense le professeur Amadou Maktambo, ancien directeur général de l'UNESCO.
Nous avons manqué de vision par rapport à nos réalités et par rapport aux aspirations de nos peuples. Nous avons manqué de vision aussi parce que nous n'avons pas su mettre en valeur les ressources potentielles que nous avons. Mais tout cela, nous ne pouvons pas le faire si d'abord nous ne partons pas de nous-mêmes. Nous ne partons pas de notre situation, nous ne partons pas des aspirations de notre population, de ses besoins, pour essayer de les résoudre, mais de les résoudre non pas sur une période courte, mais sur une période assez longue. Et si également, nous ne nous associons pas avec les pays voisins pour pouvoir mettre en valeur toutes ces potentialités.
Plutôt que de parler de manque de vision qui aurait fait défaut aux premiers dirigeants africains, le professeur Bernard Fonon-Tchouingwa du Cameroun préfère évoquer le traitement presque inhumain dont ont été victimes ces dirigeants qui brandissaient déjà le flambeau d'une Afrique unie. À cela, il ajoute ce qu'il appelle la rupture entre les idéaux des premiers dirigeants et ceux des générations qui ont suivi. Le professeur Bernard Fonon-Tchouingwa est spécialiste de l'économie politique et actuellement directeur de recherche à Forum Tiers-Monde.
Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, l'Afrique, non pas l'Afrique indépendante, mais l'Afrique luttant pour l'indépendance. Et lorsque vous relisez les programmes et le comportement, des gens qui menaient ces luttes. Vous voyez que si l'Afrique était restée sur cette manière de concevoir les choses, on ne serait pas là. Moi, je suis Camerounais. Et lorsque je lis aujourd'hui à la fois les textes et la démarche que Oum Niobe et ses amis cherchaient à impulser comme style de gouverner, comme façon de comprendre les relations entre les gens, entre le peuple et le pouvoir, c'est tout à fait différent. Donc cet élan-là qui a caractérisé les grands mouvements de libération, il a été brisé. L'une des expériences dans le mouvement de la lutte qui est allée le plus loin, c'est celle de la Guinée-Cap-Vert sous Cabral. Parce que Cabral, il a essayé vraiment d'organiser en miniature dans les coins, dans les régions qui étaient libérées, ce que pourrait devenir le pays une fois qu'il serait entièrement libéré. Les colonisateurs ont vu le danger. Ils l'ont perçu très clairement et ils ont dit « mais il faut absolument le tuer. On ne peut pas, ce n'est pas possible. » Et le problème, c'est que nos sociétés, à ce moment-là, pendant cette période de grande mutation, elles n'étaient pas suffisamment solides pour résister réellement à un tel choc. Parce que ces leaders de la première génération, jusqu'à un certain point, ce sont des êtres exceptionnels que vous ne remplacez pas comme ça. Hein. Et les colons, ils ont très bien compris ça. Donc, toutes ces personnes qui voulaient faire autre chose étaient en même temps vraiment vulnérables.
Le professeur Alioune Sall est directeur exécutif de l'Institut des perspectives africaines à l'Université d'Afrique du Sud. Il nous livre aussi sa vision des erreurs qui ont handicapé le développement de l'Afrique après les indépendances.
Le mouvement pour la libération, pour l'indépendance, a été à l'évidence un mouvement pour se défaire d'un impérialisme occidental qui a caractérisé, je dirais, le 19e siècle, qui a connu son apogée dans le 19e siècle, qui s'est matérialisé ou institutionnalisé après le congrès de Berlin, etc. Il se trouve que les principaux leaders de ces mouvements, ce mouvement de libération, a été un mouvement de libération sans doute anti-impérialiste, mais pas nécessairement anti-capitaliste. Et je pense que la grosse difficulté de l'Afrique a été de vouloir se libérer d'un système tout en restant dans le système. Et la grande force des puissances industrialisées et des puissances colonialistes qui ont négocié l'indépendance a été précisément de remettre le pouvoir à des élites qui ne remettaient pas en cause le système, mais qui cherchaient simplement à trouver une place dans le système, à s'insérer dans le système au prix de quelques ajustements sur le plan de la citoyenneté, etc. L'erreur des Africains a été de croire que cela était possible. Tant et si bien que nous avons connu effectivement, dans les premières décennies de l'indépendance, une certaine croissance économique qui a fait croire que le développement, que le rattrapage économique allait conduire au développement. Et l'on s'est rendu compte, dès les années 80, qu'il y avait bien eu croissance, mais qu'il n'y avait pas eu de développement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de transformation structurelle des structures démographiques, économiques, politiques, sociales ou culturelles. Je crois que la grosse erreur des Africains a été de considérer que la croissance allait se traduire par le développement. Or, si la croissance est une condition nécessaire pour le développement, elle n'est certainement pas une condition suffisante. Alors je crois que c'est la grande leçon à retenir. Et il faut d'autant plus la retenir que nous nous retrouvons aujourd'hui, dans la première décennie du 21e siècle, dans une situation où il y a également des opportunités d'une croissance tirée par la demande extérieure, comme en 1960. La demande d'énergie, la demande, les besoins énergétiques des pays émergents du Sud fait que l'Afrique aujourd'hui est l'objet d'une seconde ruée. Tout le monde a les yeux doux, les yeux des chimènes pour l'Afrique. Mais il ne faut pas que nous commettions la même erreur qu'en 1960, qui consisterait à jouer la carte d'une croissance tirée par la demande extérieure, parce que les mêmes causes engendreraient les mêmes effets. Nous aurions une croissance en développement.
Une autre erreur qu'ajoute le professeur Alioune Sall est la confusion faite par les élites africaines entre démocratie et croissance.
La deuxième erreur qui a été commise, je crois, par les Africains au cours, disons, de ces 50 dernières années, ça a été de penser qu'au fond, les populations pouvaient sacrifier la démocratie au profit de la croissance. Et que, au fond, ce sacrifice de la démocratie, cette relégation de la démocratie au second plan, était le prix à payer pour une croissance qui devenait l'objectif ultime. Ben, ce qui s'est passé, Et ce qui se passe surtout dans les pays du Nord, dans les pays, ce que le printemps arabe a révélé, c'est qu'au fond, les classes moyennes qui ont émergé en Tunisie, en Égypte, etc., et qui étaient présentées comme les espèces de vitrines, la preuve que la croissance était possible, que le développement était possible, ben, ces classes moyennes ont sans doute connu tirer profit de la croissance, mais ont été insatisfaites du fait de l'absence de démocratie, etc. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il ne devrait pas y avoir antinomie entre croissance et démocratisation, mais bien au contraire, renforcement mutuel, la démocratisation étant la condition d'un développement soutenu, et un développement soutenu n'ayant de sens en revanche que s'il permet d'approfondir le processus de démocratisation. Je crois donc qu'il y a là deux leçons que l'on doit retenir des 50 dernières années passées. La première, encore une fois, c'est que la croissance n'est pas le développement. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas antinomie ou ne devrait pas y avoir antinomie entre démocratisation et développement économique, mais au contraire, synergie et renforcement mutuel.
Rencontre Profil Magazine, une production de Radio Nederland en partenariat avec votre station FM locale. Dans la première partie de cette édition, nos éminents intervenants nous ont énuméré ce qu'ils considèrent comme les mauvaises pratiques qui ont été à la base du déclin de notre continent durant les dernières 50 années d'indépendance, ce qui justifie les nombreux défis que les pays africains doivent pouvoir relever pour une réelle émergence. Et de ce point de vue, d'importants bouleversements sont attendus, comme nous prévient ici le professeur Alioune Sall.
Des bouleversements, il y en aura sans doute, les plus importants étant premièrement d'ordre démographique. L'Afrique est un continent qui, entre le 15e et le 20e siècle, a subi une grande saignée démographique du fait de la traite atlantique d'abord, du fait aussi du développement d'un certain nombre de maladies, d'épidémies, etc. Et la population africaine, qui était l'équivalent environ de 10% de la population mondiale au début du 15e siècle, était tombée, comme vous le savez, à une population mondiale estimée à environ 7% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique a rattrapé son retard sur le plan démographique et ce rattrapage n'est pas sans conséquence sur le futur, parce que non seulement la population africaine dans sa totalité va peser d'un certain poids dans la population mondiale, mais les caractéristiques de la population africaine, en particulier sa jeunesse, constituent un élément à prendre en considération, parce que l'autre partie du monde, les pays industrialisés, connaissent un phénomène de vieillissement de la population. C'est donc là un changement important.
Autant la jeune et dynamique population africaine constitue l'un des principaux atouts du continent, autant ses énormes ressources naturelles représentent aussi un avantage énorme pour la croissance de son économie. Retrouvons le professeur Alioune Sall.
Il est certain également que l'Afrique ne peut pas être écartée de l'équation du futur, dans la mesure où, sur le plan économique, l'Afrique dispose d'un certain nombre d'atouts et d'avantages, dont les moindres ne sont pas ses ressources naturelles, même si aujourd'hui on tend à faire croire que les ressources naturelles constituent une source de problèmes plus que de solutions. La réalité demeure que les économies, celles des pays industrialisés aussi bien que celles des pays émergents, sont encore en très forte demande des ressources naturelles dont l'Afrique regorge. Et il est évident qu'il y a là sans doute une carte à jouer. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre de pays réussissent aussi leur transformation structurelle et rejoignent ce que l'on appelle les pays émergents. dans un contexte où les pays industrialisés, eux, sont entrés dans une crise, et une crise qui va sans doute être durable, même s'il va y avoir des ajustements, ça et là, nous sommes entrés dans une phase de crise que d'aucuns lisent comme étant le signe d'un déclin du capitalisme, un déclin qui peut durer plus ou moins longtemps, alors que l'Afrique, dit-on, a encore une carte à jouer dans une économie mondiale qui est en plein bouleversement.
Un autre atout dont l'Afrique peut se prévaloir et dont elle regorge est sa très grande richesse culturelle, laquelle culture pèsera plus encore que par le passé dans les perspectives d'avenir du continent.
Les cultures évoluent et on prête aujourd'hui une certaine attention aux aspects relationnels, et la question se pose de plus en plus de savoir si on devrait sacrifier les raisons de vivre sur l'autel des moyens de vivre, si on devrait sacrifier l'honneur aux honneurs. Et il est certain que sur des questions aussi existentielles que cela, il y a un discours africain, il y a des pratiques culturelles africaines qui ne manquent pas d'intérêt, même si, à l'évidence, il ne faut pas survaloriser ces discours africanistes qui tendent à faire de l'Afrique la dernière réserve d'oxygène culturel au monde. Il est certain que le regard des Africains sur le monde ne pourra pas être totalement ignoré.
Quand vous parlez de culture, quels sont les aspects de la culture africaine qu'il va falloir peut-être revaloriser dans les prochaines années?
Je pense que les cultures africaines privilégient sans doute un rapport au temps qui n'est pas inintéressant. Il y a une obligation de solidarité intragénérationnelle qui fait que nous avons des obligations vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis des gens de notre génération. Mais il y a également sans doute cette conception selon laquelle nous avons des responsabilités par rapport aux générations à venir. Il y a une certaine éthique du futur qui est d'une certaine manière relativement en phase avec la réflexion menée par les environnementalistes, qui est résumée dans la fameuse expression de Brundtland, selon laquelle nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, et donc nous devons faire une exploitation, une gestion rationnelle de notre environnement. Il me semble que ce regard est quelque chose de relativement important. L'autre chose qui me semble important dans les cultures africaines, c'est un message qui au fond n'est pas propre aux cultures africaines, mais que les cultures africaines ont aussi adopté, à savoir que l'homme ne vit pas que de pain, et que donc les besoins de participation, les besoins d'expression de soi, les besoins d'insertion dans une communauté comptent tout autant que la satisfaction des besoins primaires, pour reprendre les catégories d'un Maslow. Et donc, de ce point de vue-là, un regard différent posé sur le développement, ce qu'on appellerait aujourd'hui une conception plus holistique du développement, me semble être un élément caractéristique des populations africaines qui, sans doute, mérite d'être gardé dans le cadre d'un tri des valeurs qui va s'effectuer.
Il est vrai que malgré des insuffisances encore notées ça et là, les droits de l'homme, les libertés individuelles sont quelque peu plus respectés aujourd'hui dans la plupart de nos pays. Cependant, d'énormes efforts restent à accomplir pour consolider les acquis. Aucun développement n'est possible sans un minimum de respect pour la personne humaine. Professeur Bernard Founou-Tchouingwa.
Ce qui est fondamental pour les peuples, pour les populations, pour résister à la fois contre les forces extérieures qui peuvent les déstabiliser et en même temps forger progressivement les instruments qui leur permettent de devenir économiquement forts et technologiquement forts. L'élément de base, c'est le développement de l'individu. C'est le fait que le concept de la défense des droits de l'homme au sens restreint de la protection des abus des pouvoirs, ça c'est un aspect. Mais l'autre aspect qui a été ajouté, c'est celui de la nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pauvreté et surtout de pauvreté relative dans un pays qui ne soit insupportable. C'est-à-dire que les écarts en termes de niveau de vie et de richesse entre les groupes sociaux dans le pays ne doit pas être dysfonctionnel, ne doit pas être scandaleux, ne doit pas être vu par la population comme étant vraiment insupportable. Donc, lorsque vous avez dans le pays ce consensus, à ce moment-là, la possibilité de faire des grands projets et surtout de faire des discussions sérieuses, c'est-à-dire de partir de l'hypothèse que tout le monde n'est pas d'accord sur tout au départ, mais que c'est possible que, avec des discussions honnêtes, des discussions sincères, on arrive à un certain consensus et que les gens n'aient pas l'impression qu'ils ont été dupés.
Pour que l'Afrique repense son futur, réinvente son avenir et renégocie sa place dans le monde, il faudra beaucoup d'efforts de la part des dirigeants et des intellectuels. Des efforts dont l'un sera de se débarrasser de ce que le professeur Amadou Maktambo appelle l'aliénation culturelle et intellectuelle.
Il faut que les Africains pensent eux-mêmes les problèmes de l'Afrique. Nous ne devons plus permettre à des gens extérieurs au continent de penser nos problèmes à nos places. Tant que nous ne penserons pas nos problèmes, nous-mêmes, en fonction de nos réalités, en fonction des aspirations de nos peuples, eh bien, nous n'en sortirons pas. Donc, il faut, à mon avis, se débarrasser de l'aliénation intellectuelle et de l'aliénation culturelle qui fait que certains intellectuels africains veulent penser les problèmes de l'Afrique avec la pensée des autres et non pas leur propre pensée à eux. Donc, il faut que vous ayez le courage et la responsabilité de penser les problèmes africains par vous-même et de leur trouver des solutions africaines avec une vision africaine et non pas une vision liée à des intérêts extérieurs. Il y a trop de divisions en Afrique. Il faudrait que les Africains arrivent à leur unité telle qu'elle était préconisée notamment par les pères de l'indépendance qui étaient de véritables panafricanistes. Et ils savaient qu'un pays africain seul, petit pays découpé avec des contradictions intérieures très grandes, des différences ethniques énormes. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans ces conditions. C'est dans l'unité que nous pouvons même résoudre le problème du découpage colonial parce qu'il y a beaucoup de groupes ethniques qui ont été découpés entre deux ou trois territoires. Il y en a quelques-uns qui sont dans un pays, d'autres qui sont dans d'autres pays. Pour surmonter toutes ces contradictions qu'on a créées, à mon avis, c'est l'unité qui peut permettre de le faire.
Une autre paire de manches qui entrave sérieusement le développement de l'Afrique a pour nom corruption. La corruption qui est un véritable fléau contre lequel il faudra mener partout une lutte plus ardue pour un meilleur avenir de l'Afrique. Professeur Bernard Fonon-Tchouengwa.
Si on veut lutter contre la corruption, il faut voir ce qu'il y a dans les programmes d'enseignement, aussi bien du primaire, du secondaire que du supérieur. C'est-à-dire, quelle est l'éthique qui passe à travers ça? Quelle est l'éthique qui fait que la corruption peut refuser les gens? Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont contre la corruption, c'est pour des raisons purement opportunistes. Donc, la seule possibilité pour qu'on puisse faire des choses que l'on peut sérieusement maîtriser, c'est que sur le plan institutionnel, il y ait des mécanismes qui fonctionnent réellement. Mais elles ne fonctionneront réellement que si la population peut l'exiger, soit directement, par exemple par des manifestations dans les rues, soit par le mécanisme à travers lequel elle choisit ses représentants, qui vont veiller à ce que tout ce qui est considéré comme amoral, enfin des choses qui ne répondent pas à l'éthique, qu'il puisse y avoir vraiment des mécanismes qui permettent à chaque fois que ça arrive de corriger, ne serait-ce que symboliquement. S'il n'y a pas une prise de conscience très, très, très nette que malgré les difficultés, il faut insister sur l'idée que dans nos pays, nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin de société où on essaye d'enrayer la pauvreté abjecte. Et ça, c'est extrêmement important. La démocratie n'est pas là pour raccourcir l'horizon. Elle est là pour l'allonger. Elle est là pour que les gens soient sur quelque chose qui est stable. Et c'est cette stabilité qui doit leur permettre effectivement de faire beaucoup d'autres choses, de faire des œuvres, de rêver.
Pour le professeur Alioune, le futur de l'Afrique repose plutôt sur l'émergence d'un paradigme africain du développement. Une des trois conditions essentielles qu'il propose pour un avenir reluisant. Alioune Sall.
Je crois qu'il y a trois conditions essentielles à remplir pour qu'il y ait un véritable développement, et cela, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. La première chose, c'est que le développement est une notion qui est justiciable de plusieurs lectures, et il y a une certaine polysémie qui s'attache à la notion de développement. Il est temps que les Africains proposent leur propre lecture du développement. Il est temps que le développement ne soit pas simplement, ne fasse pas simplement l'objet des théories des autres et que les Africains consomment, tout comme il est temps que l'Afrique ne soit pas simplement l'objet d'une construction théorique qui est faite par les non-Africains. L'Afrique, aujourd'hui, est créée par les autres. Il est temps que ce soit les Africains qui créent leur propre lecture du développement. Donc, je crois que l'émergence d'un discours, d'un paradigme africain du développement, est une condition essentielle pour qu'il y ait un véritable développement. La deuxième chose, la deuxième condition, me semble-t-il, c'est que, au fond, la formulation d'un discours, la formulation d'un projet même de développement n'a pas de sens s'il est limité à un cercle restreint d'élite intellectuelle ou pas, peu importe. Ça n'a de sens que s'il est porté par des populations en grand nombre. Parce que, comme on le sait bien, les idées ne deviennent une force matérielle que lorsque les populations, que lorsque les masses s'en emparent. Et il faut donc travailler à ce qu'il y ait un désir de changement qui soit porté par les populations. Et puis la troisième condition, c'est qu'il faut inscrire l'action dans la durée et ne pas se faire d'illusions. Les transformations structurelles par lesquelles se définit le développement ne se produiront pas du jour au lendemain. Il y a donc nécessité d'inscrire l'action dans la longue durée et de refuser ces espèces d'horizons temporels de court terme, etc., qui, lorsqu'ils sont combinés à la myopie du marché, font que les Africains sont soumis à la dictature des urgences, qui est d'autant plus redoutable que les agences d'aide qui prétendent travailler avec les Africains ont inscrit, elles, leurs actions dans des perspectives de long terme, etc. Donc ce sont les trois conditions, me semble-t-il. C'est d'une part la possibilité de produire un discours africain sur le développement. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un véritable groupe qui se constitue autour de ce projet de société. Et troisièmement, qu'il y ait des actions qui s'inscrivent dans la durée. Et c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé, mais qui est une conclusion d'une certaine banalité, d'une certaine manière. Parce que lorsqu'on fait l'histoire des révolutions, lorsqu'on fait l'histoire des changements qui ont bouleversé le monde, et depuis que le monde existe, on se rend compte que ces trois éléments ont été constitutifs de tous les mouvements de transformation.
Un grand merci au professeur Alioune Sall, dont les propos viennent clore ce magazine. Le professeur Alioune Sall est le directeur exécutif de l'Institut des perspectives africaines à l'Université d'Afrique du Sud. Merci également au professeur Amadou Maktambo, grand intellectuel africain et ancien directeur général de l'UNESCO. Je n'oublie pas Bernard Founou Tchoungwa du Cameroun, professeur d'économie politique et directeur de recherche à Forum Tiers Monde. Je m'en voudrais de ne pas vous adresser à tous et à toutes mes sincères gratitudes pour votre fidélité à Rencontrer Profil, une émission de Radio Nederland en partenariat avec les stations FM d'Afrique et de l'océan Indien. Notre site internet www.rnw.nl et pour nous écrire afrique@rnw.nl. Au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Rencontrer Profil.